Bien, bonjour, rebonjour à tous. Très heureux de poursuivre avec vous cet après-midi de rencontre en compagnie de Guy Bollet et Christophe Boltanski. Bonjour à tous les deux, messieurs. Bienvenue bonjour. Parmi nous.
Bonjour.
Très heureux de vous retrouver. On va parler de vos nouveaux livres parus en cette rentrée littéraire. On va, bien sûr, à travers ces deux livres, parler beaucoup du rapport à la famille, puisque l'un et l'autre mettaient en scène des personnages de votre famille, le père, la mère. On va revenir, on va parler de famille et on va peut-être plus précisément parler de mythologie familiale, hein, parce qu'il me semble qu'il y a une entreprise littéraire de votre part qui remet en jeu cette question du mythe et de la façon dont vous envisagez ces deux personnages à partir des personnages réels. Tout petit mot de présentation, j'essaye comme toujours de poser 2-3 jalons des livres de manière incomplète pour pouvoir commencer la conversation. Guy Bollet, Quand Dieu boxait en amateur, c'est chez Grasset. C'est votre deuxième livre après un livre qui s'intitule Fils du feu, qui est un livre dont on peut dire qu'il se situe quelque part dans la foulée du premier, puisque dans le premier livre, vous abordiez un certain nombre de contextes, de personnages, dont le personnage du père que l'on retrouve dans Quand Dieu boxait en amateur. Et on va évidemment reparler de tout ça avec vous, avec un livre qui brille aussi par une langue très singulière qui est la vôtre, et on reparlera aussi de cela parce qu'il me semble que c'est dans l'écriture que se joue aussi le rapport à ce personnage si fascinant de votre père, ce héros. Christophe Boltanski, vous étiez ici même, hein, pour votre précédent roman publié chez Stock qui s'intitulait La Cache. Là aussi, une continuité entre les deux livres, puisque le premier livre, La Cache, évoquait votre famille paternelle. Dans cet appartement, hein, dans cette sorte de huis clos qui était celui de la famille Boltanski, on retrouve là finalement aussi quelque chose qui est de l'ordre du huis clos, de cet appartement dans lequel a vécu votre mère, qui est le personnage principal de ce livre, que vous évoquez, je dirais, dans deux dimensions finalement, et on va bien sûr reparler de l'ensemble de l'enquête que vous menez autour de ce personnage. Deux dimensions qui sont à la fois la jeunesse, au début des années 60, à un moment où évidemment ce qu'on appelle alors les événements sont en train de battre son plein, et puis finalement le regard porté sur la mère à la fin de la vie, lorsqu'elle est recluse dans cet appartement, qu'elle commence à écrire quelques romans policiers, une vie qui est aussi une vie intense, et en tout cas une vie presque de désobéissance, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Peut-être d'abord, je vais commencer avec vous deux, avec cette question très simple, et peut-être vous d'abord, Christophe, sur la continuité entre les livres, le lien qui peut exister. Est-ce que, pour vous, c'est important de replacer ce livre-là, je dirais, dans la suite de l'autre? Est-ce que ça vous paraît pertinent, même si, évidemment, l'un et l'autre existent indépendamment?
Alors, oui, tout à fait. Bon, d'abord, je voulais effectivement que les deux livres soient étanches, qu'ils puissent se lire totalement indépendamment l'un de l'autre. Mais les deux livres renvoient, je pense toujours, un peu à mes mêmes obsessions. Et c'est à chaque fois une forme de quête de l'origine, savoir d'où on vient, à quel hasard, à quelle coïncidence, à quel événement on doit la vie. Et effectivement, ce qui m'intéressait, et ce qui était d'ailleurs pour moi quelque chose qui m'interrogeait au plus haut point, c'était le jeu de miroir entre ces deux volets familiaux. Du côté du père, c'est une famille foutraque, mais qui vit recluse, qui a peur de tout, et qui et il y a aussi ce lien avec la grande histoire, parce qu'il y a cette présence continue de la Seconde Guerre mondiale. Et ce second livre parle d'une femme, ma mère, qui elle aussi est hantée par ses démons, vit elle aussi repliée, cloîtrée, et il y a aussi ce lien avec la guerre, cette fois la guerre d'Algérie. Donc les deux livres effectivement se répondent.
Guy, peut-être même question pour vous, pour introduire cette conversation. Je le disais, il y a évidemment des liens entre ces deux livres. Est-ce que vous l'envisagez aussi de cette manière-là? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette question-là?
Totalement, c'est un diptyque assumé qui va se transformer en une trilogie, parce que je suis en train d'écrire un troisième roman qui se passe dans le même quartier populaire à Besançon, quartier des Chaprais, qui est nommé dans le livre, et dont le personnage central va être celui de la mère, une mère de roman, de même que le père est un père de roman. Donc c'est une trilogie. Après, j'en aurais fini avec tout ça. Je pensais pas faire trois livres là-dessus. Et chaque fois que je fais des interviews, je cite Pierre Michon, parce que c'est déjà mon écrivain vivant préféré, et que c'est un ami, c'est mon maître et ami. Et dans son recueil d'interviews littéraires qui a été compilé, qui s'intitule « Le roi vient quand il veut », à un moment, il dit « Je me méfie du roman dans lequel se perd l'énergie de la prose ». Et c'est la phrase, pour moi, qui me correspond très bien. Je ne me sens pas romancier, même si je fais des romans. Je suis conscient du côté un peu bébête de dire ça, mais je ne me sens pas inventeur de personnages. Et en venant à pied depuis l'hôtel tout à l'heure, je me disais que j'étais romancier du réel, on l'a déjà dit, tout ça, mais je l'ai trouvé tout seul en venant à pied, j'étais vachement content de moi, vous voyez, très fier de moi d'ailleurs, je marchais dans une espèce de joie, chemise au vent, en me disant, voilà, je suis romancier du réel, et j'ai compris que j'allais faire que ça dans ma vie, que j'allais pas créer des trucs à la Balzac, j'en suis pas capable. Ce qui m'intéresse, c'est comme, enfin, vous, je ne sais pas où vous en êtes pour la suite de vos écrits, mais non, moi je suis profondément ancré dans un réel que je romance, et quel que soit le réel, parce qu'après la trilogie, je travaille sur Nietzsche, ça fait 6 ans que je suis sur un livre sur les rapports de Nietzsche et de sa sœur Elisabeth, mais je suis toujours dans un réel existant et non pas dans une fiction.
Peut-être au sujet justement de la figure paternelle qui apparaissait déjà dans Fils du Feu, hein, et qui était déjà une figure importante. Est-ce que c'est finalement une sensation d'inachevé, de n'être pas allé au bout de ce personnage-là, de ne pas l'avoir circonscrit, de ne pas avoir finalement, de ne pas lui avoir rendu justice à un point qui était le bon pour vous, qui fait que vous enchaînez sur un deuxième livre? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cela?
Oui, non, pas du tout, je suis désolé de répondre non. Hein,
c'est le but d'une question.
Non, pas du tout. La naissance de ce livre est beaucoup plus triviale. Je vous dis toute la vérité.
Ah ben, hein, on espère bien.
Je ne fais pas des trucs, parce que je peux inventer une histoire, tout ça, mais non, je vais dire la vérité. J'écris des romans, enfin des trucs depuis 1986, et j'envoie aux éditeurs qui me refusent depuis 1986. Vous voyez ? Et ils m'ont publié en donc 2016. Il m'aura fallu que de 86 à 8, 9, 10, 11, 30 ans. Il ne m'aura fallu que 30 ans, voilà, pour être édité. Et donc, j'envoie des manuscrits. Et j'avais envoyé un manuscrit à quelques maisons d'édition qui racontait, c'était un mélange de 4 vies. Il y avait Charlie Mingus, le contrebassiste de jazz, Mohamed Ali, le boxeur, Kathleen Ferrier, la contralto anglaise, et mon père. Personne n'en a voulu en disant que c'était un foutoir, alors que non, moi je pensais que c'était un roman. Mais tout le monde trouvait que c'était désorganisé, enfin que ça ne faisait pas un roman. Voilà. Mais par contre, les éditeurs, il y avait 2 grands éditeurs parisiens, ont été un peu happés par mon style littéraire en me disant « Bon, votre histoire, on n'y tient pas tellement debout, mais par contre, vous avez un beau style, est-ce que vous n'avez pas autre chose ?» J'ai envoyé « Fils du feu » qui était déjà écrit, auquel je ne croyais pas tellement, plus que ça, bizarrement. Quoi. « Fils du feu » a été édité, ça a bien marché, il y a eu 8 prix littéraires, enfin... Les prix, ce n'est pas important, mais enfin, il y en a eu 8 quand même. Et après, je me suis dit, je vais faire mon petit malin, je vais refourguer ma Kaamelott, vous voyez. Donc, à mon éditrice, je lui renvoie le livre où il y avait les 4 destins, le livre qui s'appelait Annonciation. Et il a été comme ça, vous savez, comme ils font des fois, ils disent ni oui ni non, tout ça, ils restent dans une espèce de flou artistique, tout ça. Et petit à petit, au fil des mois, elle m'a viré Mingus, puis Mohamed Ali, puis Kathleen Ferrier, en me disant, Guy, il n'y a qu'une chose de vraiment bien importante dans votre roman Foutoir, là, c'est le personnage du père. Moi, j'ai un peu fait la tête parce que je tenais beaucoup à ce roman. Enfin, je l'aimais beaucoup, je l'aime toujours d'ailleurs. Et comme personne n'en voulait, j'avais guère le choix non plus. Donc je me suis dit qu'elle avait peut-être raison. Les éditeurs, je leur fais extrêmement confiance, ils connaissent leur boulot. Alors, après avoir fait la tête, mon grognon pendant un mois, c'est-à-dire je ne répondais pas au téléphone, j'étais vraiment fâché, je ne voulais plus entendre parler d'elle. Après, je me suis dit peut-être effectivement qu'elle n'a pas tort. Allons voir dans cette direction. Et j'ai écrit « Quand Dieu boxait en amateur », non pas par volonté de faire une suite à « Fils du feu », mais parce que j'avais guère le choix, déjà.
On peut penser qu'elle n'a pas eu tout à fait tort, en effet. On y reviendra pendant cette conversation. Christophe, peut-être on peut revenir à ce que j'évoquais en introduction sur ces deux fils narratifs ou sur ces deux moments, finalement, de la mère aussi. Le personnage procède à une sorte d'enquête ou essaye de relier les points, de trouver, de remplir les creux autour de ces deux temps, je le disais, la jeunesse et puis... plutôt, je ne sais pas si on doit dire la fin de la vie, ou en tout cas quelque chose de cet ordre-là. Peut-être nous dire un mot de ce choix-là, la manière dont ces deux temps se sont organisés aussi dans la manière dont vous avez travaillé autour de la figure maternelle.
En fait, et je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens, hein, ma mère était et reste pour moi une énigme. Donc, c'est quelqu'un évidemment que j'ai connu, qui m'a élevé, mais il y avait toute une part d'elle-même qui m'est restée fermée. Et parce que aussi, c'était quelqu'un qui, très vite, était convaincu qu'elle était la victime d'une sorte de complot, que ses voisins se liguaient contre elle. Enfin, voilà, elle était dans un monde qu'elle s'était construit, une sorte de fiction une fiction dans laquelle elle était enfermée. Et où j'avais pas, enfin, où je n'avais pas ma place. Et donc j'ai voulu écrire sur elle, mais j'ai voulu écrire sur elle comme si justement j'écrivais sur une inconnue. Donc j'ai voulu écrire sur elle, sur la mère que je ne connaissais pas, sur la mère avant moi, avant ma naissance, quand elle est jeune, militante. Étudiante à Paris en anglais, mais aussi activiste d'un petit groupe de soutien au FLN algérien. Et après mon départ, quand elle vit seule avec son chien dans un appartement parisien et enfermée dans ses peurs. Donc voilà, j'ai effectivement voulu construire ce livre un peu comme une enquête pour pouvoir parler d'elle, je pense. C'est pas simplement par une sorte de recherche de forme. C'était pour moi la seule façon que j'ai trouvée pour finalement m'approcher d'elle.
Il y a cette idée de l'enquête aussi liée à la découverte des carnets, bien sûr, et je vais ensuite me tourner vers Guy, puisqu'il y a ce point commun aussi dans vos deux livres. La découverte des carnets, les romans policiers, les ébauches de romans policiers qui sont... écrit par la mère et qui deviennent une sorte de déclic ou de boîte de Pandore, je ne sais pas comment on doit l'appeler. Peut-être nous parler de ce moment-là, oui. Qui est aussi un basculement, pardonnez-moi, dans la narration, vers quelque chose qui est de l'ordre de la mise en abîme et d'une forme d'enquête.
J'ai dû faire ce que beaucoup de gens font en pareil cas après le décès de ma mère. Ma sœur et moi avons dû vider son appartement. Et dans ce cas-là, on est confronté à... un choix qui est un choix absolument épouvantable, c'est-à-dire de soit de jeter, soit de garder. Et les deux sont terribles, parce que jeter, c'est rejeter, c'est presque... Et c'est ce qu'on a fait, hein. On a énormément jeté, parce que c'est quelqu'un qui gardait tout. Et donc c'est presque une forme d'un deuxième enterrement. Et sinon, c'est garder, et garder, c'est forcément regarder. Et donc il y a quelque chose d'extrêmement intrusif, d'autant plus que c'était quelqu'un de très... secret, qui ne parlait peu, qui ne supportait pas qu'on fouille dans ses affaires. Et donc, j'ai quand même gardé quelque chose, pas grand-chose. Elle avait des centaines de carnets. Et on n'a pas osé les ouvrir, et donc on les a pour la plupart jetés, mais j'en ai gardé une dizaine, 10 précisément, peut-être même 9. Comme on garde une pincée de comme on va prélever, vous savez, une pincée de sol lunaire, enfin, comme pour avoir un aperçu de ce qu'elle écrivait. Et également, j'ai retrouvé une pochette qui s'intitulait Polar, où, à l'intérieur duquel, de laquelle il y avait 5 manuscrits dactylographiés avec des brouillons, qui étaient 5 débuts de Polar, mais qui s'arrêtaient tous au bout de quelques pages, et qu'elle a gardé pendant sans doute au moins une dizaine d'années, hein, je pense, donc avec sans doute l'espoir de les reprendre. Ce qu'elle n'a jamais fait, il y avait quelque chose qui la bloquait. Au bout de quelques pages, elle s'arrêtait. Et c'était très frustrant. C'était même assez poignant, parce que c'était, on voyait bien la morse d'une intrigue. Et le texte qui était le plus développé, qui était le seul à avoir un titre, s'intitulait justement La nuit du guetteur. Et c'est, ça parle d'un homme qui épie des femmes. On ne comprend pas très bien quelles sont ses motivations, mais on comprend qu'elles sont, pas très, qu'elles sont assez inquiétantes. Et évidemment, ça a fait écho à la mère que je connaissais, dans la mesure où elle était elle-même convaincue d'être épiée, d'être espionnée. Elle entendait des voix, des sifflements. Et donc, j'ai voulu partir de ce début de roman. Parce que je crois profondément, et ça c'est vraiment un point commun avec le livre de Guy, c'est que nos parents nous lèguent tout. Ils nous lèguent tout ce qu'ils ont accumulé, tout ce qu'ils ont fait, mais aussi tout ce qu'ils voulaient faire. Et je pense que ce qu'ils voulaient faire pèse sans doute un poids encore plus lourd que le reste. Et donc, effectivement, je me suis senti, en tout cas, engagé un peu par ce projet qu'elle avait d'écrire. Et j'ai commencé à écrire en fait après sa mort. Et c'est sans doute pas totalement sans relation avec ça.
Guy, précisément, peut-être un mot sur la découverte des carnets. Ce moment est un moment très important. C'est au début du livre où, finalement, les carnets du père, qui sont constitués, on y reviendra, hein, de mots, de définitions, de poèmes aimés ou écrits. C'est un moment aussi de prise de conscience pour vous que le père n'est peut-être pas celui que vous envisagiez. Est-ce que... là aussi, ce moment est un moment déclic, et est-ce que c'est aussi une manière, finalement, de regarder la réalité de la personnalité du père avec un autre œil, ou alors est-ce que c'est le moment où on se dit qu'on va précisément écrire à son sujet? Comment est-ce que cet épisode-là advient dans le livre et dans le rapport au père?
Bien que ce soit nos parents, il reste un mystère, de même que nous, on sera un mystère pour nos enfants, je pense. Et dans le livre de Christophe, moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'on découvre la mère au début, hein, dès les premières pages. On est avec elle pendant quelques 400 pages, et à la fin, elle est encore plus mystérieuse qu'au début. C'est-à-dire qu'elle est encore plus secrète. Je trouve que toute l'écriture ne fait que dévoiler le secret de son mystère, ou le mystère de son secret, je ne sais pas trop comment dire. Mais moi, c'était un peu différent, la démarche, dans le sens où, à partir du moment où j'ai découvert que mon père écrivait des mots, mon père qui était forgeron dans un quartier populaire, un quartier d'ouvriers avec nul livre à la maison, à part le quotidien L'Équipe, on ne va pas faire de la pub pour L'Équipe, mais enfin, il lisait que ça. Et j'aurai un article demain dans L'Équipe, je suis très content pour lui. Je le place en même temps, acheter L'Équipe, je serai en photo demain. Mais non, mais je pensais ça, là, je rigole, mais je me disais que mon père allait être fier de moi parce que je suis dans L'Équipe. Vous voyez, j'aurais été dans Le Monde, Télérama, tout ça, lui, il passait au-dessus, quoi. Il savait pas ce que c'était. Mais être dans L'Équipe, on a réussi sa vie, quoi. Voilà, voilà. Donc chez nous, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de culture, il n'y avait aucune littérature. Et mon père était acrobate et boxeur, et montait des opérettes à la maison avec ma mère, montait des petites opérettes pour les voisins du quartier, les cheminots, les ouvriers, c'était des opérettes avec un tourne-disque. Enfin, vous voyez, là, moi j'avais 10 ans, j'ai plus bien, je mettais les Luis Mariano et compagnie, ils chantaient par-dessus, on montait ces opérettes. Et c'était la seule culture. La culture était populaire, elle n'était pas livresque, elle n'était pas universitaire. Il n'y avait que ça, quoi. Et moi, j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec les chansons, avec le côté un peu désuet de l'opérette qu'on retrouve, je pense, on l'a déjà dit dans mon écriture. Et moi, j'ai grandi, pas avec Proust, mais avec Luis Mariano, vous voyez. Donc, chacun sa culture. Et donc, quand j'ai découvert que mon père, en fin de compte, voulait accéder à quelque chose de plus, mais parce qu'il notait sur un carnet des mots que personne ne connaît, enfin des mots dont personne ne sert dans la vie. Même Proust ne les utilise pas, enfin des mots complètement inconnus. Il notait parce qu'ils étaient compliqués, ces mots. Il trouvait que ça faisait beau. Et il avait l'impression d'être plus riche intellectuellement et de devenir un petit peu artiste à sa façon, quoi. Mais j'ai compris qu'il était tellement... Il n'avait pas honte de son inculture, mais il se sentait quand même inférieur dès qu'il y avait quelque chose de culturel, vous voyez. Moi, j'ai fait des spectacles pendant longtemps, pendant 30 ans. J'ai même été funambule, j'ai failli traverser de vallée, ascension de clocher. Il y a une fois, j'ai fait une ascension de cathédrale à deux pas de chez nous, il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu me voir. Et je pense que c'est parce qu'il ne voulait pas, dans ses yeux, avoir l'image de ce que lui aurait voulu être et de ce qu'il n'était pas parvenu à être. Alors, ce livre, effectivement, c'est un hommage à lui. C'est une statue que je dresse. Voilà. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais
si,
c'est
absolument.
Un peu... Oui, voilà.
Juste une petite chose avant de revenir à Christophe. Il y a aussi cette dimension-là, à certains endroits du livre, où vous évoquez le regard porté par le père sur... celui qui est maçon et qui essaye d'écrire des livres, c'est oui. aussi votre positionnement qui est oui. mis en œuvre dans le livre.
Oui, oui, c'est de l'autobiographie romancée, une fois de plus, quoi. Mais effectivement, pendant des années, j'ai écrit sans parvenir à rien, enfin, au niveau romanesque. Et je savais que mon père avait là-dessus un regard du genre, je te l'avais bien dit, c'est pas notre milieu. Enfin voilà, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Reprends la truelle. Moi, j'ai été maçon pendant pas mal d'années. J'ai bossé avec mon père dans la forge aussi. Hein. Lui, voilà, pour lui, qu'est-ce que j'allais faire là-dedans, dans cette galère? Bien, ouais. Pour reprendre nos citations culturelles.
Hein. Christophe, peut-être sur ce que disait Guy tout à l'heure sur le sentiment de ne jamais cerner et sur la difficulté finalement à essayer de oui, de cerner une personnalité, un destin, d'en trouver une forme de justesse. Est-ce que vous partagez... Guy disait qu'après la lecture, le mystère restait entier. Est-ce qu'après l'écriture, c'était le cas également?
Non, non, mais tout à fait. Je crois que Guy a très bien dit ce que je pense. Qu'effectivement, on n'arrive jamais à percer le secret de quelqu'un. On peut juste tourner autour. On peut essayer de l'approcher et de répéter. D'affronter toujours les mêmes questions sous des modes, sous des modalités différentes. Mais les questions, elles demeurent. Elles sont grandes comme la métaphysique, hein, les questions. Donc, mais je pense que, juste pour rebondir sur ce que disait Guy sur les mots, je pense que le père de Guy, il collectionne les mots parce que aussi les mots lui font peur. C'est aussi quelque chose qui l'impressionne. C'est une façon
de dompter
ces mots. Et je pense que ma mère a essayé d'écrire, et notamment d'écrire sur cette matière qui est le roman policier, pour les mêmes raisons, pour essayer de dompter ses propres peurs. Donc l'écriture comme catharsis, en tout cas, est commune aux deux personnages.
Oui, et puis comme façon de nommer la fin du livre de Guy, les derniers mots, c'est « tout ce monde ». Tout en ce monde porte un nom, donc effectivement cette idée de nommer, mais cette idée de nommer, elle est aussi en opposition au silence, finalement, à la fois le silence de la mère et puis le silence qui règne autour précisément de sa jeunesse et de son activité de militante pendant sa jeunesse, oui, au début des années 60. L'écriture répond à un silence et à un
tout
double
à
silence.
L'écriture même part d'un silence pour peut-être parvenir à atteindre un autre silence, mais et le silence, en fait, c'était pas uniquement un silence, il se résumait à quelques mots. C'était juste, je savais que ma mère, pendant la guerre d'Algérie, avait abrité chez elle un monsieur qui se faisait appeler Le Noir et qui était un dirigeant algérien, et qu'à la suite de son arrestation, elle avait dû elle-même se cacher. Je ne savais que ça, finalement. J'ai essayé d'en savoir plus, mais ça reste encore assez mystérieux.
C'est intéressant quand même de parler de cela, parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment aussi compris finalement la dimension de cette action-là à l'intérieur du début des années 60, cette forme de résistance et de soutien au FLN qui est Peut-être ma propre, je dirais, inculture, mais en tout cas, quelque chose aussi autour duquel il y a eu un silence qui est lié peut-être à la réalité de cette guerre d'Algérie et de la manière dont ça s'est passé. Mais il y a vraiment quelque chose de très particulier autour de ces militants-là. C'est des choses que vous évoquez aussi dans le livre.
C'est vrai que bon, c'est une période terrible et qui a été... La souffrance, elle est toujours vive de toutes parts. Mais ces jeunes Français, qui sont peu nombreux, on parle de quelques milliers de personnes, ceux qui vont faire du soutien, vont faire du soutien d'abord obsédés par la résistance. Ils sont obsédés par l'exemple de leurs aînés et une sorte de romantisme qui va les conduire à s'engager dans ces réseaux. Ils sont poussés par des raisons souvent morales. C'est souvent l'horreur suscitée par la torture qu'ils découvrent en lisant La Question d'Henri Alleg ou d'autres livres publiés à l'époque qui vont s'engager. Mais ils restent, pour les Français de l'époque, et peut-être encore maintenant, Éric Zemmour récemment l'a répété, il reste des traîtres, des gens qui ont porté secours à l'ennemi en temps de guerre. Il y a la fameuse phrase de Janson, qui était l'un des fondateurs du réseau, qui dit il faut être traître aux deux camps pour pouvoir être fidèle à nos valeurs. C'est-à-dire qu'eux estiment que c'est pour défendre les valeurs de la République, il faut faire ce geste-là, il faut venir en aide à ces indépendants nationalistes algériens, d'abord parce que c'est le sens de l'histoire, et pour essayer de mettre fin à une guerre stupide et inutile. Là, je cite Guy Mollet. Mais c'est vrai que c'est encore des gens qui ont peur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'était ma mère, pour elle, c'était quelque chose sur lequel elle ne parlait pas. Mais c'est vraiment un trait commun à tous les gens qui ont participé à ce réseau que j'ai rencontré pour le livre. C'est des gens qui ne parlent pas ou parlent peu. L'un d'entre eux m'a dit « La guerre d'Algérie n'est pas finie ». Une femme, médecin... qui de temps en temps va à des conférences ou des séminaires organisés autour de la question, mais qui sont assez confidentiels, refuse d'être photographiés. Donc tous ces gens ont toujours peur.
Et juste une dernière chose pour continuer là-dessus, ça n'est évidemment pas précisément la mécanique du livre, parce que vous ne cherchez pas à apporter des réponses exactes à tel ou tel comportement, mais il y a quand même l'idée que... cette forme de peur, de silence autour de l'action est peut-être à mettre en résonance avec justement la manière dont elle vit les dernières années de son existence.
Oui, moi je cite toujours cet exemple-là parce que ça m'a frappé pendant au Yémen. Il y a eu une guerre civile assez très violente dans les années 90. Et à Aden, c'est l'endroit où a éclaté cette guerre civile, il y avait une réplique du Big Ben. Et le Big Ben, quand vous y retourniez des années après, était toujours arrêté à l'heure du déclenchement de cette guerre civile. Et vous avez la même chose à Fukushima. Il y a une fameuse photo où on voit une horloge dans un restaurant et qui marque le séisme et le tsunami qui a suivi. Et je pense qu'on a tous, beaucoup de gens ont une sorte d'horloge interne brisée, comme ça, qui s'est arrêtée. Le temps s'est arrêté. Mais mes grands-parents, oui, je pense que le temps pour eux s'était arrêté pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ma mère, je pense que son horloge interne s'était effectivement arrêtée à la fin de l'année 1961.
Guy, peut-être sur cette question-là, parce que vous évoquez le père, et il y a notamment à un moment donné une discussion autour de 68, de mai 68, où il dit lui-même qu'il a conscience que le monde est en train de changer, mais qu'il ne sait pas vers quoi ça va aller. Finalement, alors c'est peut-être lié aussi à l'endroit où il était, cette ville que vous évoquiez, son milieu, mais il n'y a pas forcément d'ancrage dans un contexte social, politique. Il y a quelques petites touches comme ça, mais on a l'impression aussi, je parlais de mythologie au début de la rencontre, que vous vous êtes extrait finalement de ce contexte-là, ou alors peut-être que le destin de votre père s'est inscrit en dehors de ces dimensions-là, je ne sais pas.
Oui, enfin j'ai pas choisi le roman pour faire des analyses ou discours politiques, parce que j'écris pour le théâtre. J'ai écrit une trentaine, quarantaine de pièces très politisé, très engagé, avec des compagnies qui ne sont pas forcément dans le circuit traditionnel. Quoi. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le rapport de la France avec ses colonies, dans des spectacles, avec ses... tous les soldats qui sont morts à la guerre pour nous. Avec, je travaille dans en milieu carcéral, j'anime des ateliers d'écriture en prison, dans les bidonvilles. Et je travaille comme dramaturge pour des compagnies de danse hip-hop. Vous voyez, donc les mecs de hip-hop, ils viennent plutôt des quartiers dits populaires. Et mon travail politique est résolument dans le spectacle vivant. Alors... Enfin, il n'empêche que, à la fois dans les deux romans Fils du Feu et Quand Dieu boxe en amateur, on traverse des époques qui se bouleversent mutuellement. C'est-à-dire on part quand même de ce qu'on peut appeler la France de Pétain, enfin, sans y mettre des valeurs fascistes et tout ça, la France de travail, famille, patrie, la France qui est encore populaire à échelle humaine, où les gens se parlent entre eux d'une maison à l'autre, et on assiste à l'arrivée des voitures, des immeubles, des locomotives à vapeur qui disparaissent, de l'électricité, de la forge de mon père qui disparaît. Donc on traverse quand même l'histoire, quoi, la grande histoire. Et à un moment, on se retrouve confronté avec mai 68, donc le narrateur qui est censé être moi, participe à l'âge de 16 ans au grand bouleversement des mœurs et des idées. Renverse le père, parce que mai 68, le but, c'était de tout foutre en l'air, toute forme d'autorité, la paternelle étant en tête de gondole, bien sûr. Quoi. Enfin, moi, je sais que j'aurais pas aimé être père en mai 68, parce que tout un monde s'écroulait. Je trouve que nos parents ont été relativement costauds par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et dans le troisième roman, donc sur la mère, parce que je prends le personnage de la mère, je me suis mieux débrouillé que Christophe parce qu'elle est dans le coma tout le long du livre. Alors déjà, moi je m'en débarrasse pas mal, voyez.
Moi elle est allongée, hein, mais pas dans le coma.
Ça, elle est allongée. Bon, elle est dans le coma, je parle à sa place, elle peut pas parler. Mais je survole à la fois la Shoah et la guerre d'Algérie. La Shoah parce que je parle, le troisième roman part de mes grands-parents, de mon grand-père qui était allemand. Et bon, voilà, je brasse un petit peu d'histoire, mais... ce n'est pas mon propos prioritaire. Oui.
Peut-être, Christophe, on vous plaisantait effectivement sur ce sujet. Elle était dans un lit. Mais c'est vrai que le personnage de la mère est un personnage qui est marqué par une profonde solitude. C'est quelque chose que l'on ressent très fort au fil du livre. Mm-hmm. Cette dimension-là, elle était aussi une dimension que vous avez essayé de comprendre, d'explorer, vous diriez cela ?
Oui, oui. La femme que j'ai connue était quand même presque tout le temps allongée. Je l'ai vraiment connue... Allez, trois quarts du temps allongée dans son lit en train de lire des polars ou d'autres romans. Elle lisait énormément en fumant des gauloises et en buvant son café au lait. Ouais, elle mangeait peu, on mangeait pas beaucoup avec elle parce que ça l'intéressait pas vraiment et sa principale source nutritive c'était effectivement le café au lait. Et après, vers la fin de sa vie, mais où elle est beaucoup plus seule, et je vais la voir, mais je ne vais pas la voir, je ne vis pas avec elle en permanence, elle est encore et toujours dans son lit, mais elle n'est pas forcément seule, malheureusement. Elle vit entourée de ces bruits, de ces voix, de ces sifflements, de tous les gens dont elle pressent dont elle ressent la présence. Donc elle est dans une fiction, je pense. Elle est dans un autre monde. Et évidemment, ça, enfin justement, je trouve que ça interroge. On a envie de, justement, de voir ce que la littérature peut faire de tout cela. Comment raconter la vie de quelqu'un qui vit couché ?
Et en même temps, vous apportez une forme de réponse, effectivement, dans ce livre, avec vous aussi un travail sur le réel, sur l'enquête, sur le témoignage, la dimension fictionnelle, une espèce d'entremêlement comme oui. ça de divers matériaux. C'est-à-dire
Tout
que cette
fait.
Dimension-là, vous l'appliquez à vous-même, d'une certaine façon.
Absolument. Enfin, moi, ce que j'ai essayé de faire, pour le premier livre également, c'est-à-dire que je pars de matériaux, je pars du réel, hein, parce que c'est effectivement, moi, le réel m'intéresse. Plus, en fait, je crois que c'est faire un peu le pédant, je crois que c'est Lacan qui dit que le réel, c'est ce qui résiste. Et c'est vrai que la force du réel, c'est souvent de nous, c'est de nous surprendre, justement. La fiction ne nous surprend pas toujours. Et donc mais j'utilise ces matériaux, ces histoires, ces bouts de souvenirs, ces différents fragments, comme des matériaux, justement, pour essayer de construire quelque chose. Et parce que je suis resté un grand enfant, et quand j'étais petit, j'adorais construire des maquettes, des grandes maquettes. Et pour moi, un livre, c'est un peu comme une maquette. J'essaye de reconstruire quelque chose qui ressemble à quelque chose.
Avec aussi des sortes de trappes, d'endroits où finalement on ne peut pas aller, ou même l'écriture où l'écrivain ne sait pas aller. Une forme d'échec à l'intérieur de l'enquête ou de la recherche.
Absolument, absolument. Je ne cherche pas à déployer un récit totalement linéaire ou tous les. Je ne cherche pas à remplir les blancs. Je pense que les blancs, de temps en temps, c'est bien de les laisser en l'état et même, de même que les silences. Je pense qu'on peut transmettre aussi des émotions et des impressions et à travers ces silences et à travers ces blancs.
Et Guy, il y a une chose peut-être, je vois que le temps passe très vite, encore quelques questions à l'un et à l'autre, puis ensuite je donnerai la parole au public. Ce qu'on n'a pas évoqué avec le père, vous avez parlé effectivement de son activité de forgeron, la forge qui était d'ailleurs un lieu très très important du premier livre que l'on retrouve ici. Vous avez parlé de la boxe également. Le père, c'est aussi un corps peut-être avant tout. Il y a cette dimension très physique, très charnelle de son activité et de la manière dont l'enfant le regarde, le reçoit. Est-ce que ça aussi, c'est une dimension qui était importante dans le livre, de non pas forcément à travers des descriptions physiques, mais quelque chose qui est la présence physique à travers ces... Je dis la forge, la boxe, peut-être c'est un rapprochement un peu rapide, quoique il en est question dans le livre.
C'est pareil, la forge et la boxe, hein, ce sont deux manières d'utiliser son corps. Et qu'on tape sur l'enclume ou qu'on tape sur un boxeur, ben, bon, il vaut mieux ne pas être boxeur, il vaut mieux être enclume, je suis d'accord. Mais tout de même, c'est pareil, c'est un rapport physique à de la matière. Il y a de la matière vivante et de la matière inerte. Mais enfin, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est pour reprendre ce que disait Christophe. Là, souvent, j'avais trouvé une phrase de Montaigne qui disait « Faute de mémoire, je m'en forge de papier ». Si j'ai écrit « Fils du feu », je ne la connaissais pas. Autrement, j'aurais mis en exergue parce que ça se passe dans la forge. Donc ça veut dire quoi? Faute de mémoire, je m'en forge de papier. Ça veut dire que nous, n'importe qui, n'importe quel être humain, a une mémoire tout à fait relative. Une chose, sitôt qu'elle a été vécue, elle est déjà passée. Sitôt qu'on la raconte, elle va être différente de la vérité. Et l'écriture, le papier, donc, va nous permettre de réinventer une mémoire qui, certainement, va être beaucoup plus juste que la mémoire dont on pense qu'elle est juste. Et l'écriture, moi j'aime l'écriture à cause de ça. J'aime l'écriture du réel, enfin, on va l'appeler comme ça, peu importe, parce qu'elle m'a redonné la mémoire de mon père boxeur, de mon père... Enfin, à dire vrai, mon père était champion de France de gymnastique et pas de boxe, mais il a fait de la boxe. Et donc après, et il a fait un peu de théâtre aussi, tout ça. Mais ça reste assez flou, ça reste assez lointain. Et, en écrivant, en étant porté par les mots, parce que moi je suis davantage porté par les mots que par l'envie de faire un roman avec une histoire, avec une dramaturgie, je ne sais pas du tout faire ça, quoi. Les mots, petit à petit, en les tirant de je ne sais trop quel lieu, sans doute un peu sacré, arrivent à me faire écrire quelque chose, quoi.
Il y a la mythologie de la boxe aussi, parce que ce qu'on n'a pas précisé, ce qui était déjà présent dans le premier livre, c'est aussi la mort du fils. Et dans les deuils qui marquent profondément le père, il y a évidemment la perte du fils. Et puis, il y a la mort de Marcel Cerdan. Oui. On est là aussi dans une sorte d'entremêlement, finalement, des figures mythologiques et des liens affectifs familiaux. C'est pas anecdotique, cette...
Non, pas du tout. Les deux romans, Fils du feu et Quand Dieu boxait en amateur, sont au plein cœur de la mythologie, enfin, tirent leur force de la mythologie. Dans Fils du feu, l'enfant qui regarde la forge voit surgir Vulcain, Zeus, on parle des dieux sans arrêt, on parle des dieux de la Bible qui pour moi sont les mêmes que ceux de la mythologie grecque, enfin hein, on parle pas de foi, autre chose comme ça, quoi. Moi je suis allé au catéchisme petit et la mer rouge qui s'ouvre en deux comme deux portes de grange, vous voyez, c'est avec, en noyant toutes les armées, et puis Goliath avec sa fronde qui va tuer l'autre grand dadé, enfin, ou David, enfin, peu importe, tout ça. Tout ça, il y avait un côté entre la mythologie grecque, romaine, mésopotamienne et la Bible, je ne faisais pas de différence. Et comme je suis autodidacte, je ne suis pas allé à l'école, hein, tellement je suis parti à 16 ans de chez mes parents avec une guitare pour aller cracher le feu sur les places publiques, vous voyez, donc j'ai découvert petit à petit mon propre univers littéraire, qui est parti des Grecs, hein, des trajets grecs, qui est parti enfin, aussi de tout ce que je viens de citer, là, aussi bien la Bible que l'épopée sumérienne. Je me suis bâti petit à petit un petit univers dans lequel j'ai pu mettre les petits wagons d'un certain réel.
Christophe, peut-être encore une ou deux petites choses, et puis ensuite je me tourne vers le public. Vous avez évoqué tout à l'heure le roman policier, La nuit du guetteur, l'enquête que vous avez mise en route, et il y a notamment sur la fin du livre des très beaux passages sur cette espèce de mise en abîme permanente et presque finalement impossible à résoudre entre celui qui regarde, celui qui est regardé, on pourrait dire celui qui est le sujet du livre et celui qui le compose. Vous parlez notamment de ce tableau de Velázquez, de la lecture qui en a été faite. C'est aussi ça le livre, c'est-à-dire que cet entremêlement de regard du sujet, objet, de celui qui témoigne, il y a vraiment cette dimension-là.
Oui, tout à fait. C'est un livre où tout le monde suit tout le monde. Parce que ma mère, à un moment donné, elle est convaincue qu'elle est elle-même regardée, épiée. À un moment donné, elle emploie un détective privé pour suivre celui qu'elle considère comme son persécuteur. Pendant la guerre d'Algérie, le groupe dont elle fait partie va être démantelé par la direction de la surveillance du territoire. Et il va y avoir une trentaine d'arrestations et ça va être une grosse opération de police en début novembre 61, l'opération Flore. Et il y a 32 personnes donc, qui sont arrêtées, 15 Français, 15 Algériens, et c'est toute la direction de la Fédération de France du FLN qui va être démantelée. Et ça, c'est le fruit de plusieurs semaines, de 7 à 8 semaines de filature, où là, vous avez des agents en civil qui suivent tous ces jeunes dans Paris. Et puis elle-même, sans doute, a été amenée à être aussi... peut-être a-t-elle été... utilisée comme une éclaireuse par le groupe où elle militait. Donc c'est vraiment un livre où tout le monde suit tout le monde regarde tout le monde, et évidemment le guetteur, le premier guetteur, c'est moi qui essaye de guetter cette femme, de percer d'essayer enfin de percer son secret.
Peut-être un mot sur les extraits qui ouvrent certains chapitres. Parce qu'il y a aussi la question de la présence-absence derrière ce que vous venez de dire.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, chacun... Il y a deux fils, comme vous disiez, hein, le fil de cette jeune femme à la fin de l'année 61 et le deuxième fil de cette femme solitaire, recluse à la fin de sa vie. Les chapitres qui portent sur la fin de sa vie sont toujours précédés d'extraits de ces débuts de polar, justement, qui est une façon pour moi de leur rendre hommage, de les faire exister. Sinon, autrement, ils auraient fini comme pratiquement tout ce qu'on a sorti de son appartement dans des grands sacs poubelles. Et c'est aussi comme une sorte d'écho lointain. C'est une écriture, c'est une voix. Vous entendez la personne qui parle derrière ces mots. Et donc c'est sa présence qui court. Elle est peut-être absente de mon. Enfin, du moins, elle reste très fantomatique sous mon écriture, mais elle est bel et bien présente à travers ses propres mots.
Guy, peut-être aussi, on n'a pas évoqué, c'est une partie du livre, mais on laissera comme ça le plaisir aussi au lecteur de découvrir notamment tout ce qui tourne autour de la mise en scène de cette pièce et de ce rôle qui est le rôle de la vie, finalement, du père. Il y a deux moments, il y a ce moment-là, et puis il y a le combat de boxe aussi auquel il participe, qui est presque, je ne sais pas, en tout cas, moi je le lis comme ça, comme un moyen de redonner une forme de hauteur, d'élévation. Au père, vous disiez une statue tout à l'heure, mais c'est des moments presque de gloire. Il y avait l'envie de porter haut finalement la figure paternelle dans ces moments-là. Est-ce que vous l'avez envisagé de cette manière-là?
Non, je ne sais pas trop comment comment Moi, ce qui m'intéresse, c'est le. Avant tout, j'en ai pas parlé, c'est le chant de la phrase, c'est la prosodie, c'est le rythme. C'est ça qui m'intéresse en premier et c'est ça qui va me tirer vers telle ou telle histoire. C'est vrai. Hein. L'autre jour, j'ai lu que Simenon, qui fait les Maigret, quand il commençait un Maigret, il n'avait aucune idée de l'intrigue. Et je le crois, ça, je le crois volontiers. Il n'y avait aucune raison de mentir. Il partait et il disait, moi, je tire sur une phrase et puis je regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que fait le personnage, où est-ce qu'il va et tout ça. Et ces deux romans, même s'ils sont bien orientés sur une direction précise, je ne veux pas dire c'est malgré moi, c'est pas tombé du ciel, mais c'est l'écriture, en fin de compte. C'est le... Parfois, il arrive qu'une phrase m'emmène ailleurs. J'avais une vague idée, fait en fin de compte, je vais partir ailleurs. Enfin, au début, ce n'était pas prévu, le combat de boxe, par exemple. Vous voyez, je pensais pas que j'allais faire un combat de boxe. Et il s'est trouvé que les mots m'ont amené là. Alors moi, je suis toujours un peu embêté de répéter toujours que ce sont les mots qui me guident, mais je ne peux rien dire d'autre parce que c'est vrai.
Mais je ne vais pas vous obliger à dire autre chose, cher Guy. Alors, je finis avec ça. Le tout début du livre est aussi une entrée très particulière, puisqu'on regarde cette ville de Besançon d'assez loin. Il y a un ancrage tout de suite, effectivement, géographique, qui installe aussi un contexte, finalement, au personnage du père. Donc, ça veut dire que ce début est le début. C'est-à-dire que vous commencez par là. C'est votre première phrase, c'est le début du livre. Et c'est ça qui, à un moment donné, enclenche petit à petit la mécanique.
Oui, enfin... Le premier roman, je voulais pas situer le livre à Besançon, enfin chez moi, dans le quartier. Je le dis sans trop de honte, mais j'avais peur que ça fasse un peu plouc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on dit « Ah merde, encore un auteur régional qui nous fatigue, qui nous bassine avec ses trucs de bouseux, tout ça. » Mais parce que, voilà, je l'avais entendu et effectivement, je me disais « Le premier livre n'est pas situé ni dans l'espace ni dans le temps. » Et le deuxième, je me suis dit que non, j'ai pensé au début de West Side Story, où on a un hélicoptère qui passe au-dessus de Manhattan, et puis on survole les buildings, et puis petit à petit, on va descendre, on arrive dans une cour, une espèce de machin de basket, puis il y a des mecs qui claquent du doigt, et tout ça, et je me suis dit, tiens, c'est pas mal de survoler Besançon, arriver dans le quartier, près du dépôt, puis d'arriver sur mon père qui est en train de lire un dictionnaire, enfin, ou un livre, je ne sais plus bien dans le livre. Et après, une fois que le début comme ça s'est installé, comme un petit peu une séquence de cinéma, ben après, j'ai continué petit à petit, quoi, en retapant un petit peu dans mes trucs d'opérette que j'ai écrit pendant 20 ans, dont personne ne voulait. Donc j'ai un petit peu recyclé, comme Jean-Sébastien Bach qui recyclait plein de cantates, vous voyez, des trucs comme ça, je fais pareil que Bach, quoi, mais avec les mots, pas avec la musique.
Christophe, sur cette dimension-là, de la tonalité, juste, et puis cette fois-ci, je laisse la parole, est-ce que, précisément, à cet endroit-là, quand on aborde un sujet comme celui-ci, ou en tout cas qu'on a envie de travailler autour de la figure maternelle, est-ce que les questions de justesse, de tonalité, d'endroit, j'imagine, c'est des questions extrêmement fortes, est-ce que vous avez mis du temps à trouver le bon endroit, à trouver l'enclenchement finalement de la tonalité qui vous permet ensuite de mettre en œuvre tout ce dispositif?
En général, quand je commence le mot en général est peut-être un mot trop fort, parce que c'est mon deuxième livre, mais je sais ce que je ne veux pas faire. Je ne sais pas précisément ce que je veux faire, mais je sais à peu près ce que je ne veux pas faire. Et pour la cache, il y avait deux choses qui m'ont guidé. Je ne voulais pas écrire une biographie familiale, même si évidemment il s'agit de ma famille, mais abordée d'une façon tout autre. Et je ne voulais pas non plus faire un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale sur fond de Shoah, même si évidemment, parce qu'il s'agit de mon grand-père qui est caché, la Shoah était très présente. Mais pareil pour ce livre, je ne voulais pas écrire un livre sur l'enfance. Je ne voulais pas. Je voulais écrire un livre sur justement trouver la bonne distance pour pouvoir parler de ma mère. Donc, et comme effectivement j'ai été longtemps journaliste, sans doute que l'enquête a été pour moi une façon d'appréhender cette histoire. Donc d'en faire un personnage de elle-même, un personnage de d'enquête, mais ou de polar. Les deux genres sont assez proches.
Je vous remercie tous les deux. Je vais me tourner vers le public pour que vous puissiez prendre la parole. Oui, vous pouvez les applaudir, en effet. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Oui, madame souhaite prendre la parole. On vous apporte un micro tout de suite.
Est-ce que d'avoir évoqué les figures maternelles, paternelles, est-ce que vous savez pourquoi ça vous a dégagé de la place, notamment Christophe Boltanski?
Est-ce que vous savez pourquoi? Pardon.
Ça vous fait de la place mentalement. Pourquoi d'autre?
Non, bonne question. Je pense que il y a quelque chose de libératoire. Oui, j'étais avec un copain et on parlait d'un livre de Thomas de Kinsey sur la mort d'Emmanuel Kant. Et Emmanuel Kant, à la fin de sa vie, était complètement paranoïaque et il perdait aussi la mémoire. Et donc il passait son temps à noter des choses sur son carnet, non pas pour s'en souvenir, mais pour pouvoir l'oublier. Et donc pour pouvoir le passer, voilà, c'était une façon aussi de lutter contre ses propres peurs. Et je pense que l'écriture, il y a quelque chose de cette nature. Quand on écrit, c'est pour garder une trace quand même de quelque chose, mais c'est aussi pouvoir s'en libérer, effectivement, de faire de la place. Voilà, je ne sais pas si
après, j'ai... de la place, pourquoi? C'est une autre question, en effet. Guy?
Oui. Eh bien, en remontant de l'hôtel tout à l'heure, ce que je pense quand je marche, mais c'est vrai, en plus, je me disais confusément que j'étais né pour ça, que j'étais venu à l'écriture pour ça, pour rendre hommage à mes parents. C'est tout.
Voilà une belle réponse. Merci madame. Une autre question, intervention? Oui, regardez, le micro est pas loin de vous. Allez-y.
Merci, bonjour et merci à tous les trois. En écoutant Guy Bollet, pardon, je ressens très fortement justement la figure du père. Et je me disais que vous ne devriez peut-être pas abandonner l'idée de faire publier votre premier roman, parce qu'il y a l'acrobate, il y a le boxeur, j'ai oublié le troisième tableau, mais je me disais que tout ça était quand même très présent, mais bien sûr, je me mêle de ce qui ne me regarde pas.
Vous, on va vous envoyer son éditrice, hein, c'est sûr. Allez-y, Guy.
Le problème, c'est que j'ai déjà extrait le père, ils ne sont plus que trois. À moins de reprendre le père de ce roman et de le remettre dedans, vous voyez? Oui, mais je vais essayer de refourguer le roman avec les trois autres, c'est-à-dire avec Charlie Mingus, Mohamed Ali et Kathleen Ferrier. C'est entre nous, peut-être chez un autre éditeur, je dis ça au cas où il y a quelqu'un de chez Grasset là. Non. Et puis... Non, mais en fin de compte, j'ai enlevé le personnage du père pour le mettre dans Quand Dieu boxe en amateur, et j'ai refait une version avec que les trois. Alors peut-être qu'au fil des ans, il n'y aura plus que deux, puis etc., plus qu'un, on va repartir à zéro, quoi.
Affaire à suivre.
Et affaire à suivre.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Oui, madame?
En 61, elle a 20 ans.
Pour l'âge de la mère de Christophe Boltanski, c'était la question de madame au moment de 61 et de son militantisme. Est-ce qu'il y a encore peut-être une question ou deux? Oui. On va.
Faudrait un micro pour la dame au deuxième rang.
Ouais, ça va arriver. Merci beaucoup. Si vous voulez bien faire passer le micro, s'il vous plaît.
Bonjour. Alors, je m'excuse parce que déjà, il y a 60 auteurs qui viennent à Manosque et on ne peut pas tous les lire avant que vous veniez. Je n'ai malheureusement pas lu vos deux livres, mais avec mon ami, là, on a été vraiment très touchés par tout ce que vous avez dit et on va les lire. Ça, c'est sûr. Voilà, merci beaucoup de continuer d'écrire comme ça.
Bien, bah écoutez, ça peut être une manière de terminer cette rencontre. Est-ce qu'il y a encore peut-être une dernière question, un regret, une envie particulière?
Peut-être dernière chose, parce que tout à l'heure vous avez évoqué l'un et l'autre, et notamment Guy, le fait de peut-être d'être venu à l'écriture pour cela. Vous diriez aujourd'hui que à la fois le père et la mère sont devenus des personnages de roman. Vous diriez ça comme ça. Est-ce que c'est une manière d'attaquer la chose qui vous convient peut-être pour boucler aussi cette rencontre autour d'un sourire.
Oui, moi, mais enfin, ils sont devenus des personnages de roman et il n'y a que comme ça que je pouvais écrire sur eux et leur rendre hommage. Je pouvais pas, enfin, comme on a déjà dit, la vérité, on ne sait pas trop ce que c'est, elle est trop mouvante, elle est trop vieille, mais en faire des personnages de roman, moi, ça me va et j'ai eu l'impression vraiment que c'était une de mes missions, même si le mot est un peu, hein, vous voyez, mais quand même, voilà.
Oui, moi, je pense que c'est à peu près la même chose. Ma mère avait une pensée un peu paranoïaque. Donc, le propre de la pensée paranoïaque, c'est que c'est un monde fermé, clôturé et mécanique, où tout ce qui se passe autour de vous est rapporté, ce rapport vient conforter l'existence d'un ennemi. Et évidemment, c'est un monde où les autres n'ont pas leur place et où moi, je n'avais pas ma place. Et donc ce livre, c'est aussi une façon de rentrer dans sa tête, donc d'en faire un personnage, quelque chose que je maîtrise, et donc effectivement de pouvoir prendre sa folie au sérieux d'une certaine manière. Donc, un personnage de roman, tout à fait.
Bien, mais écoutez, on vous retrouve tout de suite à la librairie ici pour un petit temps de signature. Merci infiniment à tous les deux et merci de votre écoute.